enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Eh bien, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, et mon thème ce matin est la liberté chrétienne. Et nous lisons ensemble les versets 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu l'a ressuscité. Pardon, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité le pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu ou honorez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jusque-là, la lecture. Dans Proverbes chapitre 6, lisons ensemble un texte que je vous laisse sur le cœur, comme ça, simplement. Proverbes 6, verset 20. « Mon fils, dit le rédacteur de ce texte, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront pendant ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Verset 24, ils te préserveront de la femme corrompue ou de l'homme corrompu, hein, de la langue doucereuse de l'étranger ou de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne laisse pas séduire par ses paupières. Par la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée ou l'homme marié tend un piège à la vie précieuse. » Et voilà le verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que son vêtement s'enflamme? Quelqu'un imagine-t-il pouvoir marcher sur des charbons brûlants sans que ses pieds ne soient brûlés? Il en va de même pour celui qui va vers la femme de son prochain, et je dis aussi vers l'homme de la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, etc. Si on le trouve, il fera une restitution. Mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point, etc. etc. Je m'arrête là. Peut-on jouer avec le feu sans se brûler? Eh bien non. Si vous jouez avec le feu, vous risquez tôt ou tard de vous y brûler. Alors je me permets aujourd'hui de parler assez vigoureusement parce que je me dis peut-être ça peut nous aider à nous contrôler, à nous maîtriser pendant les mois chauds. L'été sera chaud, disait la chanson, très chaud. Eh bien, restons peut-être la tête froide à ces moments-là. Voyez-vous, la parole de Dieu est très claire à cet égard-là. Elle laisse des exemples qui doivent nous parler. Je pense à Samson, par exemple. Une fois, avec la fille philistine, et puis une deuxième fois, il va vers une prostituée à Gaza. Lui, l'homme de Dieu, va vers une prostituée à Gaza, comme ça, simplement. Et visiblement, Dieu ne dit rien. Et puis, à la troisième fois, et bien là, Dieu le laisse aller à ses penchants naturels. Et là, il va se faire avoir. C'est Delila qui va l'user à force de parole. Et à un moment donné, il va céder, livrer son secret et perdre sa force. Je pense à Saül, le roi, lui aussi. C'était pas les filles chez lui, c'était le pouvoir, la soif du pouvoir. Une fois, deux fois, trois fois, à la troisième fois, eh bien, Dieu l'abandonne à sa soif et à sa quête du pouvoir et il va tout perdre. Il voulait tout gagner, il a tout perdu. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a un homme qui me fait toujours réfléchir, c'est Judas. Vous me direz, oui, mais lui, il était prédestiné à cela. Et pourtant, Judas a été un de ses choisis, un disciple du Christ. Il a entendu les meilleures prédications. Il a vu le Christ de près, il l'a touché, il a partagé son temps avec lui pendant 3 ans, il a cheminé avec lui, en proximité, en première classe, tout près du maître. Et pourtant, Jean 12 nous apprend que, trésorier de Jésus, il piquait régulièrement dans la caisse. Son penchant à lui, c'était l'amour de l'argent. Et à un moment donné, à cause de l'amour de l'argent, et encore autre chose peut-être, soif de voir son pays être vidé des Romains, etc. Il va vendre son maître pour 30 sicles d'argent. Voyez-vous, quand on joue avec le péché, il y a un moment donné où c'est nous qui devenons les marionnettes du péché. Samson a pendant longtemps joué avec le péché jusqu'au jour où lui est devenu la marionnette du péché. Lui qui infligeait des sévères défaites aux Philistins va devenir une marionnette pour les Philistins. En prison, on va lui crever les yeux et quand ils feront des fêtes à leur divinité, ils vont l'appeler dans la cour royale et ils vont le faire trébucher, faire danser. C'est lui qui va devenir la marionnette des ennemis. L'été est une saison favorable au dérapage. La météo permet une vestimentation plus légère, il y a le temps libre, les loisirs à gogo, etc., etc. Il y a moins de pression, mais on oublie peut-être que le diable est un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Et il dévorera surtout celui ou celle qui ne s'est pas préparé. Deuxième point ce matin, comment nous y préparer, comment traiter l'accoutumance au péché. Peut-être le premier point que je dirais, c'est reprendre conscience de ce qu'est le mal et de ce qu'est le bien. Appeler de nouveau le mal, mal et le bien, bien. Frère, qu'un jour, sous tes yeux passe une donzelle qui charme ton regard et que tu l'aperçoives et que tu tournes la tête, ça va bien, ça peut t'arriver. Mais quand au bout de X mois, à chaque fois qu'il y a une jeune femme qui est sur la route et que tu vois devant tes yeux, tu tournes la tête pour l'examiner du haut en bas et du bas en haut, il y a un problème. Tu t'es accoutumé. Ce deuxième regard, tu t'es habitué. Et j'aimerais te dire, fais-lui la guerre. Appelle de nouveau le mal, mal. Appelle le mal, mal. Et prends conscience qu'être croyant ne signifie pas que la tendance au péché a été disparue. Deuxièmement, qu'on n'éprouve plus de plaisir au péché. Oui, nous sommes nés de nouveau. Oui, nous avons reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau, avec de nouveaux désirs. Mais le centre de contrôle en haut, le centre de décision, lui, il faut qu'il soit renouvelé. Il faut qu'il soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un travail qu'il va falloir que tu fasses. Et puis troisième point, eh bien, être croyant ne signifie pas non plus que tu n'es plus à te débattre avec des habitudes coupables. Il y a un proverbe qui dit « Chassez le naturel et il revient tôt ». Vous êtes très bon ce matin, vraiment. Naturellement, nous sommes pécheurs. Et avec une aisance naturelle, nous y retournons. Hébreux 12 nous dit de faire attention à ce péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi est-ce si facile? Parce que ça nous est naturel. Et on a tous la même lutte et le même combat à mener. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui est fait au jour le jour contre le mal en nous? Eh bien, on risque de le voir nous vaincre un jour, comme l'ont été Judas, Saül et Samson. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la et jette-la loin de toi. C'est pas lui qu'il fera, à toi de le faire. Il y a un travail à faire. Alors rapidement, 5 conseils ce matin. Comment éviter d'attiser le feu de la convoitise ou de rester soumis aux propositions aventureuses de l'été? Premier point peut-être, s'abstenir des désirs charnels. 1 Pierre 2,11, il est dit, bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir. à vous abstenir des convoitises charnelles, version autre dit des passions humaines, qui font la guerre à l'âme. Abstention. On connaît ça en France, n'est-ce pas? L'abstention. Ça veut dire refuser, ou rejeter, ou ne pas faire. Il y en a qui disent, frère, moi j'ai un problème avec ce péché-là, je vais aller prier Dieu pour qu'il m'en délivre. Ben, t'as tort, mon ami. T'as tort. C'est à toi de t'abstenir d'aller pécher. Maintenant, si tu veux, on va prier ensemble. Dieu te donne la force de t'arrêter de pécher. Mais mon ami, il y a un moment donné, il faut que tu mettes ta volonté en action. Et Dieu va collaborer avec toi. Au moment où tu veux le faire, tu auras la force de le faire d'en haut. Amen. Abstenez-vous des désirs charnels. Nous avons lu il y a un instant dans 1 Corinthiens 6, fuyez l'immoralité. Il n'est pas dit résister à l'immoralité. Hello. Il est dit résister au mal, résister au diable. Mais il est dit fuyez l'immoralité. Joseph, fils de Jacob, n'est pas resté devant Madame Potiphar là en se disant il ne va rien arriver, je suis comme un glaçon. Il savait que lui aussi était jeune, que les hormones travaillaient très 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 bien. Et que face à une jolie femme comme cela, peut-être que lui aussi, même en étant croyant, risquerait de plonger. Eh bien, il a fui. Il a une réaction saine et sainte. Il a fui. Hello. Fuyez l'immoralité. Fuyez l'immoralité. Ne dites pas, il faut que je prie pour ça. Non, arrête-toi. Cesse, à l'instar de ce que Paul a dit dans Éphésiens, que celui qui dérobe ne dérobe plus. Il n'a pas dit que celui qui dérobe aille voir frère Jean pour qu'il lui impose les mains afin qu'il ne dérobe plus. C'est pas ce qu'il est dit. Il est dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Autrement dit, arrête-toi. Deuxième point. Refusez d'alimenter la chair. Romains 13, verset 13, et c'est un texte aux croyants, un texte adressé aux croyants. Il est dit, conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous, écoutez voir ce texte-là, c'est surtout destiné au fameux barbecue de l'été. Ou des fois, ben, on se laisse aller. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie. Comment ça? Des chrétiens ivrognes? Apparemment, à Rome, il y avait dans ce domaine-là un petit souci. Gardons-nous de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Il n'y a pas de jaloux ici, n'est-ce pas? C'est très bien, alléluia. C'est fantastique. Il est dit, n'alimentez pas cela. Ne l'alimentez pas, affamez la chair et ses mauvais désirs et rassasiez votre nouvelle vie dans le Seigneur. Amen. Troisième point, gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Hébreux 12, verset 2 dit, gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. On ressemble toujours à ce qu'on adore. Pour preuve, j'en veux Psaume 135. Il est marqué la chose suivante, je vous le lis, psaume 135, verset 15. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, et tous ceux qui se confitent en elle. Ce qui est vrai dans le domaine négatif est aussi vrai dans le domaine positif. Si j'adore Jésus, si je le mets dans ma première, à la première place chaque jour de ma vie, même pendant le mois de juillet et août 2002, je vous assure qu'à un moment donné, en gardant les yeux fixés sur lui, le péché n'aurait pas d'emprise sur vous. Vous allez ressembler à Jésus et vous serez pour d'autres la lumière du monde. Amen. Troisième, quatrième point, méditez sa parole. Méditez sa parole. En 2003, nous aurons l'année qui a été déclarée année de la Bible. À deux buts, avec deux buts. Premier but, ramener les croyants des églises à aimer l'Écriture sainte. Et deuxièmement, parler de l'Écriture sainte aux incroyants. Amen. Mais d'abord, je vais parler aux croyants ce matin. Méditez la parole de Dieu. S'il vous plaît, mettez à profit ces jours de congé pour prendre du temps pour lire votre Bible et pour la méditer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est marqué, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Saturez vos pensées avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu remplissant votre cœur et votre esprit. Philippiens 4, verset 8 dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À tout acte précède une pensée. Comme nous avons fait cette estrade-là, quelqu'un a imaginé le dessin. Il y a réfléchi, il y a pensé, il l'a dessiné. C'est venu de l'invisible, de la pensée de quelqu'un, et c'est devenu visible, palpable. Eh bien, c'est pareil pour notre vie de tous les jours. Remplissez votre pensée de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit pour autant que juillet et août 2002 devraient être une année monastique. Et qu'on vous retrouve tous cloîtrés dans un lieu solitaire. Je n'ai pas dit ça. Je crois qu'il est possible d'aller dans le monde, de sortir, de voyager, tout en cultivant sa communion avec Dieu. Amen. Et de traiter avec vigueur l'accoutumance au péché. Cinquième point, il y en a encore d'autres, mais je m'arrête là ce matin, sinon le temps sera dépassé et je serai fondu. Cinquième point, veillez et priez. Veillez et priez. Jésus l'a enseigné. Lorsque vous priez, priez ainsi. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Bien-aimés, lorsque vous vous levez le matin, vous ne savez pas forcément ce que le jour vous apporte. Il se peut que vous soyez gardé et protégé, mais il se peut aussi que certains jours, le diable veuille votre peau. Et à ce moment-là viennent des choses qui, des fois, peuvent vous surprendre, intérieurement et extérieurement. Et j'aimerais vous dire, osez vous tenir dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi la force. Ne me laisse pas glisser vers la tentation. Ne me laisse pas céder à la tentation. Préserve-moi du malin. Préserve-moi de ces peaux de banane. Et là où tu me laisses aller dans le feu de l'épreuve, donne-moi la force de tenir ferme. Amen. Jésus, à la veille de sa mort, Luc 22, verset 39, il est dit, il se rendit selon son habitude. Apparemment, il avait des habitudes bien assises au fond de sa vie. Au mont des Oliviers, ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Priez. La prière est une arme, bien-aimé. La prière est une arme. Elle est comme l'atmosphère autour du globe terrestre. Bien-aimé, si le globe terrestre n'avait pas d'atmosphère, la terre serait percutée par des météorites à longueur de journée et le soleil serait insupportable. Mais l'atmosphère autour du globe permet que les météorites soient désagrégées lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère. Et les rayons du soleil sont supportables pour nos corps. Amen. Et bien pareil pour votre vie spirituelle. Veillez et priez. Priez et veillez. Faites attention et priez. Afin que vous ne cédiez pas à la tentation. Tout un programme, n'est-ce pas, pour 2002. Quel programme. Mais j'aimerais vous donner vraiment envie de vivre un été superbe. En finissant par un troisième point que j'appellerai la loi de la liberté. Nous avons lu avant, tout est permis. Oui, frère, il est permis d'aller en vacances, d'aller te reposer, d'aller manger à un bon restaurant, de boire une bonne bouteille de vin, pas de problème. Oui, frère, il est permis d'aller à la plage. C'est pas un problème. Le problème, c'est peut-être toi au fond de toi-même, n'est-ce pas? Bien-aimé, il y a une loi qui est la loi qui produit la liberté. Jacques, chapitre 1, verset 25 dit, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, La loi qui produit la liberté. Apparemment, une loi est contraignante, n'est-ce pas? Et on se dit, mais qu'est-ce que la loi a à voir avec la liberté? C'est paradoxal. Eh bien non, il y a une loi qui produit la liberté. Le code de la route me permet de rouler à 130 sur l'autoroute. Et si tout le monde suit ce code-là, je n'aurai pas d'accident. Je peux rouler à 90, 100 sur le national, à double sens, sans avoir d'accident. Si tout le monde le respecte. C'est une loi qui me permet de rouler libre. Il y a aussi une loi de la liberté qui me permet de jouir du monde sans me conformer au monde. Amen. Ça permet d'être dans le monde sans être du monde. Alors, relisons peut-être ensemble un texte parallèle à 1 Corinthiens 6. C'est dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. L'apôtre Paul reprend ce terme. Apparemment, dans l'église de Corinthe, il y avait un slogan. Tout est permis. Et Paul ne dit pas le contraire. Il dit oui, mais. Et je reprends le texte un texte parallèle où il va plus loin un petit peu et il fait une conclusion à la fin du chapitre. Il reprend cette expression, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et puis, il prend un exemple. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Et puis, il applique ce verset au cas des visites. Et il dit, si un non-croyant vous invite et que vous alliez manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Il y en a qui allaient manger les païens, et comme les païens avaient acheté de la viande sacrifiée aux idoles sur le marché, les croyants se disaient, mais est-ce que je peux manger cette viande ou pas manger? Et Paul dit, mais mangez-en. Mais si quelqu'un maintenant vous dit, et on pense qu'il pense à un croyant là, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience, je ne parle pas de votre conscience à vous, mais de celle de celui qui vous a averti. Pourquoi en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Et puis il conclut maintenant, à partir d'un verset, d'un exemple, il généralise en disant, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est basique, manger et boire, n'est-ce pas? Mais quelque part, Paul dit, mais dans tout ce que tu fais, frère, sœur, pose-toi la question, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que ce que je dis là, est-ce que ce que je mange là, est-ce que la masse de choses que je mange là, est-ce que la quantité d'alcool que j'ingurgite là, est-ce que cela honore encore Dieu? Est-ce que la façon dont je m'habille honore Dieu. Je fais une petite parenthèse là, rapidement. Mesdames, mesdemoiselles, saviez-vous que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus? C'est un livre. C'est pas vrai, n'est-ce pas? On a tous été créés par Dieu, mais quelque part, on fonctionne très différemment. Elle s'habille très coquette. Lui, il pense, waouh, quel beau brin de fille. Elle pense que pour l'été, il faut s'habiller un peu plus léger. Lui, il se dit, intéressant. Bien-aimé. Les hommes, bien-aimés sœurs, je dis ça à vous, n'est-ce pas? Les hommes fonctionnent différemment des femmes. Alors, je n'ai pas dit ce matin que toutes les femmes de la PO devraient se promener en plein été, à 35 degrés à l'ombre, avec un col roulé et une jupe jusqu'aux chevilles. Mes sœurs, soyez belles, soyez coquettes, soyez mignonnes, mais soyez décentes. Je n'accuse personne, je ne condamne personne, je ne moralise personne. J'aime que ma femme soit jolie. Je l'aime bien habillée. Et des fois, je lui dis, va t'acheter une robe. Mais personnellement, il y a des moments où je dis, ça, c'est vraiment féminin ce que tu mets là. Elle me dit, pourquoi? Bah, je dis, moi, je suis un mec. Hein. Moi, je vois autre chose, là. Toi, tu te vois jolie. Moi, je vois une belle forme. Alors, si moi, qui suis chrétien, qui mets dans ma tête des barrières intérieures, je pense ça, j'imagine ce que pensent les autres qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas de barrières intérieures. Autrement dit, mes sœurs, je vous comprends. Vous êtes toutes belles, n'est-ce pas? Et toutes veulent être coquettes et tout, des petits pointies. Mais cependant, s'il vous plaît, aidez-nous un peu. Aidez-nous un peu. Un peu beaucoup, même. Posez la question à votre mari. Comment tu me trouves, là? Et osez-lui, donnez-lui la permission de vous dire vraiment ce qu'il pense. Et vous verrez. Je répète, si maintenant vous venez tous, dans 15 jours, à un col roulé, je reparlerai de ça. Je vous dirai, allez vous changer. On est d'accord. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans tout ce que je fais, est-ce que j'honore Dieu? Je résume et je conclue. La météo estivale influence généralement la météo de nos cœurs. Et les fermes convictions ou résolutions intérieures sont souvent érodées ou fondent comme cire au soleil des tentations. Hors du cadre, métro, boulot, dodo, église, il y a une tendance générale au laisser-aller, avec le cortège de conséquences que vous connaissez. Trois conseils. 1. Restez loin du feu. 8. Vom Krieg, qu'est-ce qu'on dit? Krieg. Loin du feu de la guerre, on fait des vieux soldats. C'est vrai aussi à ce niveau-là. Loin des tentations, loin des endroits sordides, vous avez beaucoup moins de chances de tomber. Je n'ai pas dit pour autant qu'il faut vous cloîtrer chez vous, n'est-ce pas? Deuxième point, traitez vigoureusement l'accoutumance au péché. Commencez peut-être de nouveau à appeler le mal, mal, et le bien, bien. Des fois, quand... Comme ça, l'été, il y a un bon barbecue et qu'on a soif. Bah, écoutez, après 2 canettes de bière, reprenez de l'eau. D'accord? 3e point, marchez selon l'esprit, selon la loi de la liberté. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs mauvais de la chair, n'est-ce pas? Je voudrais finir par un dernier texte que je vous laisse comme ça en méditation et en guise de conclusion. 2 Pierre 3:17. Et quand vous l'avez, je vous invite à vous lever. Je voudrais le lire avec vous. Et puis nous prierons ensemble. 2 Pierre 3:17. Vous donc, bien-aimés, il s'agit de vous ce matin et de moi, nous donc, bien-aimés, qui sommes avertis, vu le message, mettons-nous sur nos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, nous ne venions à déchoir de notre fermeté. Nous avons pris des résolutions au début d'année. Après le nouvel an, nous avons réaffirmé nos résolutions pendant la semaine de jeûne et nous sommes devenus fermes. Mais rappelez-vous ce verset, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, par osmose, par contamination, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et puis, le verset suivant, l'équilibre du message. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en grandissant là-dedans, dans cette connaissance de la grâce et du Seigneur lui-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a une formidable liberté à vivre en Jésus. On peut vivre un été super, un été plein de voyages et d'aventures saines et bonnes et bénéfiques pour nos corps. Que Dieu puisse vous donner ce message comme une aide à passer d'excellentes vacances. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Prions ensemble.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.